Bonjour à toutes et à tous, si bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, générique.
Opus Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissine. Une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar. Et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Merci d'être fidèle à Accent 4, partenaire du Festival de musique de Colmar. Nous sommes donc installés à l'hôtel Le Maréchal pour une deuxième émission. Hier, nous recevions Evgeny Kissine et cette émission est bien sûr réécoutable sur le site d'Accent 4. Et je vous invite vraiment à écouter cette émission qui était, à mon avis, une bonne émission. Aujourd'hui, un invité, Jean-Jacques Grolot, dramaturge du Festival de musique de Colmar, mais aussi dramaturge à l'Opéra de Toulouse, et peut-être aurons-nous la chance de recevoir d'ici quelques minutes David Cadouche et Edgar Moreau, qui nous ont donné, il y a quelques minutes, Jean-Jacques, un concert assez exceptionnel.
Oui, c'était vraiment, à tous les niveaux, un concert absolument génial. D'abord, il était très long en plus, je pense que c'était quand même un programme digne d'une grande soirée, et donc vraiment merci à eux d'avoir accepté de jouer ces trois grandes œuvres. Et la qualité de ce jeu, aussi bien dans, bon, les après on pourra discuter des différents répertoires, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une progression extraordinaire jusqu'à cette sonate assez peu connue de Rita Stroll. Moi j'étais vraiment enflammé pendant une heure et demie.
Dont nous reparlerons tout à l'heure, Jean-Jacques,
avec plaisir.
Une femme compositeur à découvrir et une œuvre absolument géniale.
Génial, oui.
Que l'on a découvert au disque il y a peu et aujourd'hui,
grâce à eux justement.
Grâce à eux, ouais. Et aujourd'hui au disque. Le rappel du concert de ce soir à 21h à l'église Saint-Mathieu, eh bien, l'Orchestre National Philharmonique de Russie sera dirigé par son directeur Vladimir Spivakov, qui est par ailleurs directeur musical artistique du Festival de musique de Colmar, et puis une affiche à faire pâlir d'envie bon nombre de directeurs de salles de concert, Martha Argerich, Sergei Nakaryakov et Misha Maïevski, dans un programme russe, Tchaïkovski et Shostakovich. Et puis on écoute tout de suite Martha Argerich et Sergei Nakaryakov dans le premier mouvement du concerto de Shostakovich, le premier. Le premier mouvement du premier concerto pour piano de Dimitri Shostakovich, pour trompette et orchestre, et piano bien évidemment. Martha Argerich, Sergei Nakaryakov, les musiciens de l'orchestre de la Suisse italienne, placés sous la direction d'Alexander Vedernikov. Jean-Jacques, ce concerto sera donc au programme ce soir du concert de l'Orchestre National Philharmonique de Russie à l'église Saint-Mathieu à 21h. On retrouvera donc deux des solistes, Martha Argerich et Sergei Nakaryakov. On peut dire que c'est l'un des concertos fétiches de Martha Argerich.
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai qu'elle elle le joue beaucoup, elle l'a enregistré plusieurs fois. Mais c'est marrant que vous ayez commencé par dire le concerto pour piano, parce que c'est vrai que la partie de piano est quand même très importante dans cette œuvre. Mais il faut savoir qu'à l'origine, Shostakovich l'a pensé pour un trompettiste, et pas du tout pour un pianiste. Donc il était très ami avec, alors ne me demandez pas son nom, mais le trompettiste solo de l'orchestre de Leningrad. Et il voulait lui écrire donc un concerto pour trompette qui s'est très rapidement transformé en concerto pour piano et trompette. Et donc celui que nous connaissons actuellement et qui a été créé donc en 1933. Mais c'est marrant qu'on garde, même si la partie de trompette est extraordinaire et très difficile, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer que c'est plutôt un concerto pour piano avec de la trompette obligée, comme on dit. Mais vraiment, il faut savoir que Shostakovich l'avait pensé d'abord pour trompette.
C'est une œuvre de jeunesse de Shostakovich.
Oui, oui. Alors, de jeunesse parce que effectivement, le 33, il n'a pas encore connu tous les déboires qu'il connaîtra à la fin de cette décennie avec les vexations du pouvoir stalinien. Pour l'instant, il est encore dans la phase de création et de liberté absolue. Donc, il se permet des choses qu'il ne se permettra absolument plus après. Il fait beaucoup de citations. Il utilise des thèmes d'opéra connus, des thèmes populaires. Il fait une sorte de mélange de tout ce qui l'intéresse, même du jazz, vous l'avez entendu. Voilà. Et il en fait sa propre sauce. Et ça sonne quand même, c'est du Shostakovich, on ne peut pas se tromper. Mais il utilise tout ce qu'il peut, tout ce qui l'intéresse à cette époque. Ça, après, vraiment, quand le pouvoir lui tombera dessus, il changera totalement de langage.
Oui, ça deviendra une attaque plus...
L'attaque ne sera plus frontale.
Voilà.
Absolument.
Tout à fait. On peut signaler qu'il existe un enregistrement de ce concerto avec Bernard Soustrot et Evgeny Kissin et Vladimir Spivakov.
Absolument. Un des premiers enregistrements de Kissin, d'ailleurs.
Alors, Jean-Jacques, on vous connaît comme passionné de lyrique. Vous êtes dramaturge à l'Opéra de Toulouse. Vous avez été directeur d'administration artistique de l'Opéra National du Rhin. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes passionné, mais un amoureux fou du piano.
Ah bah oui, bon, chacun a son petit jardin secret. C'est vrai que je suis arrivé à la musique par le piano en fait. Donc ma grand-mère était pianiste, elle a été prof des Sœurs Labec. Alors malheureusement ou heureusement pour moi, je ne sais pas, elle ne m'a jamais donné de cours. Donc je suis devenu un très mauvais pianiste moi-même. Mais j'ai toujours adoré le piano et ça ne m'a jamais lâché. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé aussi, enfin beaucoup. Comme vous le savez sans doute, j'ai écrit deux ouvrages, un sur Rachmaninoff et un sur Horowitz. Donc là, c'est vrai que mon côté amoureux du piano est ressorti. Mais oui, du fait de mon métier, les gens pensent que je n'aime que l'opéra. Mais non, ça n'est pas vrai du tout.
Un Horowitz, un Rachmaninoff paru aux éditions Actus Sud. On en a parlé sur l'antenne, bien évidemment, oui. D'Accent 4. Deux pianistes, quel rapport Evgeny Kissin a à l'égard de ces deux pianistes? On a l'impression qu'il a un sentiment un peu mitigé à l'égard d'Horowitz.
Oui, et je le comprends, parce que c'est un petit peu ce que je disais d'ailleurs dans le livre. Horowitz est tellement entaché de cette réputation de battleur, d'amuseur, à toujours vouloir jouer plus vite, plus fort, et des œuvres qui forcément vont plaire. C'est vrai que je comprends que quelqu'un comme Kissin, qui est quelqu'un d'un petit peu plus cérébral, plus réfléchi, enfin, plus... par rapport à l'image qu'on a gardée d'Horowitz. Je comprends qu'il ne soit pas fasciné forcément par ce modèle-là, enfin, par ce pianiste-là, et qu'il ne veuille pas en faire un modèle. Comme d'ailleurs, et nous en parlions précédemment, il préfère, par exemple, Gilels à Richter. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant chez lui, et qu'on retrouve dans son autobiographie. Mais après, vu la troisième sonate de Schumann qui nous a faite hier, avec moi qui avais ce modèle Horowitz forcément dans l'oreille pour avoir travaillé sur ça il y a peu de temps, je trouve que ce qu'il a fait est extraordinaire et garde le meilleur côté du pianisme fuligineux, satanique de Horowitz, tout en ayant quelque chose peut-être plus, plus apollinien aussi dans la manière de rendre justice à cette œuvre, en étant moins romantique au mauvais sens du terme romantique.
Et Horowitz n'avait peut-être pas la réputation d'être un intellectuel, alors que peut-être Kissin, Gilels en sont.
Absolument. Mais là aussi, voilà, vous dites bien, c'est une réputation. Parce que, comme vous le savez, quand Horowitz était jeune, il était extrêmement cultivé. Il ne faisait pas que du piano, mais il s'intéressait à tout, à tous les arts. D'ailleurs, quand ses parents l'avaient amené chez le vieux Scriabine, Scriabine avait dit « Oh, mais il fera un bon pianiste. Oui, il n'y a pas de problème avec ça, mais cultivez-le, faites-le lire, amenez-le au musée. » Et ça, ses parents ont bien compris que voilà, la culture était quelque chose d'essentiel. Donc voilà, c'est le paradoxe d'Horowitz qui a une réputation qui ne correspond pas du tout en fait, au personnage qu'il était dans la réalité.
Oui, d'ailleurs, dans sa biographie, Nathan Minstein raconte ses années d'errance en Union soviétique.
Les premières années sont extraordinaires.
Avec Vladimir Horowitz. Et puis effectivement, il y avait une curiosité intellectuelle de la part des deux assez intense.
Absolument, oui.
Martha Argerich, Evgeny Kissin, c'est un couple qui a déjà joué ensemble.
Eh bien, là, vous me posez une colle.
Il me semble.
Mais je suppose, on peut le croire. Elle a de toute façon beaucoup de plaisir à jouer avec les artistes de la jeune génération. Comme vous savez, depuis quasiment 20 ans, elle a même une académie pour ça, où elle promeut les jeunes artistes, beaucoup de jeunes pianistes, évidemment. Et donc, oui, ça ne m'étonnerait pas, même si j'en suis désolé pour nos auditeurs, mais là, je n'ai pas d'exemple précis de concert qu'elle ait pu faire avec lui.
Je suis désolé. Vous ferez des recherches, Jean-Jacques, pour la prochaine émission.
Absolument.
Pour un prochain Opus Festival. Edgar Morin. Alors, Edgar Morin,
ah, ça, alors c'est...
je l'avais reçu ici même à ce micro il y a 5 ans. Quel développement de carrière et quel jeu.
Il est encore très jeune, donc oui, il devait avoir 18-19 ans quand vous l'avez reçu la dernière fois. Oui, c'est un des prodiges absolus du violoncelle. Il vient de nous le prouver là avec ses 3 œuvres de Mendelssohn, Poulenc et Rita Stroll. Vraiment, il est... Enfin, après, tout dépend des goûts, évidemment, mais je trouve qu'il a absolument tout ce qu'il faut pour être un des très grands maîtres de demain. Ça n'est pas juste un virtuose plein d'énergie. Il a cette qualité de toucher, la qualité dans les couleurs. Vous avez entendu ça dans le troisième mouvement du Stroll, justement. C'est extraordinaire ce qu'il fait, avec une maîtrise, une maturité qui est incroyable. Je l'ai entendu la semaine dernière, il était à Toulouse, au Capitole, où il jouait un très rare concerto de Lalo, qui n'est pas une œuvre facile, elle est pas très connue. Et vraiment, il arrivait à transporter ça, à donner de l'intérêt à ces pages qui ne sont pas forcément les plus brillantes de Lalo. On l'avait entendu la semaine d'avant à Montpellier dans le premier de Saint-Saëns, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus brillant. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de vraiment à suivre absolument.
Je crois d'ailleurs qu'il a un projet d'enregistrement de ce concerto de Lalo et de celui de Jacques Offenbach.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et pour nous aussi, les auditeurs, car c'est des œuvres à connaître quand même. Et alors, ce que j'ai trouvé, si vous me permettez, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand même, dans le concert de tout à l'heure, la qualité du duo qu'il forme avec David Kadouch. On a l'impression qu'ils respirent ensemble. Les attaques sont d'une... on peut même pas dire propre. C'est simplement comme s'ils ne faisaient qu'un. Ça m'a vraiment impressionné, parce que c'est le genre de choses qu'on peut arriver à faire au disque. Voilà, on se trompe, on refait. Mais là, pendant 1h30, ne pas rater une seule attaque, être toujours ensemble dans l'idée, dans le timing, c'était vraiment extraordinaire.
On reparlera de ce couple, oui. David Kadouch, Edgar Morin. La volonté aussi d'Edgar, c'est de casser les barrières stylistiques. Il a enregistré des concertos de l'époque baroque avec un ensemble baroque, Il Pomodoro.
Oui, ça, voilà, il fait partie de cette génération qui est née avec cette culture du retour aux instruments anciens. Voilà, pour lui, ça n'est pas forcément une lutte comme ça a pu l'être pour ses aînés, pour les violoncellistes de la génération précédente. Et donc c'est très bien qu'il arrive, voilà, de manière tout à fait naturelle, à vouloir jouer ses œuvres sur des instruments d'époque. Et oui, voilà, on en est, j'espère, arrivé à un moment où ce genre de démarche est devenu naturel et presque normal, je voudrais dire.
Alors on va l'écouter dans un concerto de Carlo Graziani. C'était aussi, je crois, une grande découverte au disque et sans doute une grande découverte aussi pour Edgar Morin. Voici le deuxième mouvement et il l'ensemble Il Pomodoro est dirigé par Riccardo Minasi, un disque Erato.
Thank you.
Nous écoutions Edgar Moreau interpréter le deuxième mouvement du concerto en ut majeur de Carlo Graziani. L'ensemble Il Pomodoro était placé sous la direction de Riccardo Minasi. Dans ce disque publié par Erato, on trouve aux côtés du concerto, du célèbre concerto de Haydn, on trouve d'autres des œuvres de Vivaldi, de Boccherini et d'un autre compositeur peu connu, Giovanni Platti. Jean-Jacques, vous avez eu quelques minutes pour trouver, pour faire quelques recherches et donc vous confirmez que Martha Argerich a bien joué avec Evgeny Kissin.
Le miracle d'Internet, effectivement. Donc Evgeny Kissin et Martha Argerich ont joué plusieurs fois ensemble, aussi bien dans du répertoire classique comme la sonate pour de piano de Mozart ou du répertoire du XXe siècle avec les Paganini de Lutoslavski. Voilà. Donc nous n'avons pas dit de bêtises.
Voilà. Et il a fait aussi un autre duo, avec un chef d'orchestre très célèbre, James Levine, un concert mémorable dans l'esprit de ceux qui y étaient, c'était à Carnegie Hall en 1995, je crois.
Ils ont joué, oui, plusieurs fois ensemble. De quel disque vous parlez ?
Schubert.
Le Schubert, oui.
Schubert 4 mains.
Et effectivement, oui. Alors, Levine, comme souvent, ces très grands chefs d'orchestre sont aussi d'excellents pianistes. D'ailleurs, petite parenthèse, Edgar Moreau a commencé comme pianiste. James Levine, pour en revenir à lui, est effectivement un excellent accompagnateur. Il a accompagné pas mal de chanteuses aussi pour des Liederabend. Et ce disque, oui, est un des premiers, d'ailleurs, où Kissin joue à quatre mains avec un collègue. Et ça reste, pour moi, malgré tous les soucis que connaît le pauvre James Levine, un des disques majeurs de ce répertoire.
Et je crois que dans son livre, Kissin cite plusieurs chefs d'orchestre. Il cite la belle collaboration qu'il a eue avec Carlo Maria Giulini, le concerto Absolument. En la mineure de Schumann. Herbert von Karajan, bien sûr, qui l'a propulsé sur la carrière.
Absolument,
qui a donné
oui.
un envol international. Et puis James Levine, qui est l'un ou voire son chef préféré, je crois.
Je ne suis pas sûr qu'ils disent que ce soit son chef préféré, même si. Mais après, je comprends tout à fait cette logique entre Levine et Giulini. Vous avez ce même rapport très lyrique, le rapport au chant et à l'écoute de l'autre aussi. C'était des chefs qui, malgré leur très grande réputation, leur carrière immense, n'imposaient rien. Si, ils imposaient parfois, évidemment, mais était toujours à l'écoute de ce que l'autre artiste avait à proposer avant d'arriver comme un bulldozer en disant non, c'est comme ça et pas autrement. Donc pour moi, il y a une réelle logique entre ces différents chefs d'orchestre, comme Spivakov d'ailleurs aussi, qui était un des premiers chefs à l'avoir remarqué, à lui avoir donné la chance de travailler hors de Russie.
Et James Levine, Kissin parle de sa rencontre avec James Levine, d'une rencontre extrêmement amicale. On a l'idée que la rencontre avec Karajan devait être très différente,
oui.
un peu hautaine peut-être, mais James Levine, une sympathie immédiate. Et James Levine lui fait parvenir le lendemain de cette rencontre tous ses enregistrements et Kissin est très content parce que ça lui permet de découvrir du répertoire.
Oui, absolument, oui. Et alors oui, c'est vrai que le caractère des deux chefs était extrêmement différent, effectivement. Déjà, en plus, ne serait-ce que par la carrière, surtout à l'époque, Karajan avait une sorte d'aura de vieux maître. C'était le chef par excellence. Donc être intronisé par lui, en plus, pour ses premiers concerts importants à l'extérieur de la Russie, ça devait être très impressionnant pour le jeune artiste qui était à l'époque Evgeny Kissin. Et en plus, il est vrai, Karajan n'avait pas pour habitude de se mettre au niveau de ses interprètes, même s'il était à leur écoute. Mais alors que oui, Levine avait cette, du moins, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais a cette réputation d'avoir toujours été quand même très, très affable. Et je pense qu'il devait être sensible à ce jeune homme qui avait une autre culture, qui était plein de cette énergie débordante, mais aussi d'un il avait quelque chose à lui apporter, quoi. Et c'était une vraie relation. C'était pas simplement le vieux maître qui allait faire la carrière du jeune prodige. Levine avait senti qu'il y avait ce rapport à avoir et où il pouvait lui-même se nourrir de quelque chose. C'est ce qu'il y a de bien avec ces chefs-là. Quoi, qui, vous savez, on parlait de Giulini. Giulini aussi avait été choisi par Horowitz, justement. On en parlait pour le tout dernier disque de concerto, le 23e. Et c'est pas un hasard non plus. Ce sont des gens qui vraiment acceptent d'avoir un dialogue d'égal à égal, même malgré leur très grande carrière. Et voilà.
On revient au concert de ce midi, oui. Jean-Jacques.
Avec plaisir.
Et cette grande sonate dramatique, Titus et Bérénice, de Rita Stroll. Alors, quelques mots peut-être sur cette femme compositeur.
Oui, alors, elle est, je vous l'avoue, je ne la connaissais pas avant que ne sorte ce disque d'Edgar Moreau et de David Kadouch chez Erato. Et pour moi, ça a été une découverte absolue, d'abord par la qualité de cette musique, et donc je me suis un peu renseigné quand même sur elle, et effectivement, ça n'est pas n'importe qui. C'était une très très grande pianiste, est entrée au Conservatoire de Paris à 13 ans, est originaire de Lorient, et elle a été admirée aussi bien pour ses qualités de pianiste que pour ses qualités de compositrice par tous ses contemporains, que ce soit... Camille Saint-Saëns, Dindy, enfin voilà, c'était quelqu'un qui comptait. Elle a beaucoup gravité, davantage d'ailleurs, dans le milieu des arts plastiques de la peinture que dans le milieu de la musique. Visiblement, elle avait quand même un sacré caractère. Hein, donc, alors, est-ce que ça a joué en sa défaveur et est-ce que c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui passée aux oubliettes et que malheureusement, on ne la connaît quasiment plus? Alors, j'espère que ce disque va inverser un petit peu la tendance. Mais je me suis un petit peu renseigné et j'ai l'impression que ces œuvres ne sont pas vraiment bien éditées. Beaucoup sont encore en la possession de ses descendants, ses héritiers, qui ne demandent sans doute pas mieux que de les voir éditées. Mais c'est vrai que n'étant pas connu, forcément, ça ne donnait pas envie aux éditeurs de le faire connaître. Mais là, vous l'aurez entendu en live aussi, c'est quelque chose qui marche absolument. C'est plein de j'ai l'impression, sans vouloir être trop dithyrambique non plus, mais d'avoir un petit peu le meilleur de Wagner, le meilleur de Liszt, le meilleur de Schumann, et quelque chose qui marche, qui n'est pas juste du patchwork, mais qui est vraiment authentique, sincère, avec une force. Vous disiez tout à l'heure en micro qu'on a l'impression qu'elle est tellement heureuse de cette musique, qu'elle s'en nourrit, on se dit tiens, ça va jamais terminer parce que ça rebondit toujours. Mais on a ça aussi chez Mahler par exemple, où à la fin on se dit bon, ça pourrait s'arrêter là, puis on a encore 10 minutes de coda. Et c'est cette utilisation de certains leitmotifs qui est extraordinaire, qui reviennent avec une fluidité incroyable, on ne les sent pas venir, on se dit tiens, il y a une transition formidable, et hop, on retrouve un thème qu'il y avait dans un mouvement précédent, qui est complètement métamorphosé, comme par le prisme d'un kaléidoscope. C'est extraordinaire, le jeu des atmosphères, des couleurs. Moi, vraiment, c'est une grande découverte, et je ne souhaite qu'une chose, c'est que ces autres œuvres soient vite publiées et enregistrées.
Alors, vous avez cité Schumann, Wagner, Liszt, mais j'ai pensé aussi à moi, Fauré, au début du quatrième mouvement.
Alors oui, il y a effectivement, en plus on est absolument dans cette époque où Fauré invente ce premier langage très, très mouvant sur les harmonies, avec cette manière de passer d'une tonalité à l'autre, qui peut paraître abrupte, mais qui est en fait comme une sorte de fondu enchaîné absolument subtil et très doux. C'est vrai que quelquefois, quand vous essayez d'analyser un nocturne ou un impromptu de Fauré, c'est très difficile. Quoi. Les choses s'enchaînent les unes aux autres avec une subtilité incroyable. Et c'est vrai qu'on a ça aussi. Mais au début, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le premier thème, on a l'impression d'être dans le Weinenklagensorgen de Liszt. Qui est aussi quelque chose pour le coup de... Alors, ça a beau être pris chez Bach pour, comme thème. En fait, on a un travail sur les enchaînements harmoniques qui est extraordinaire. Là aussi, une sorte de chromatisme, l'oreille est un peu perdue. Et c'est exactement ce qu'il faut pour cette œuvre à programme. Alors, je dis à programme, puisque effectivement, cette sonate est intitulée Titus et Bérénice. Donc forcément, on a tous en tête l'histoire de la tragédie de Racine. Et... où les deux amants vont être obligés de se séparer. Donc on sait d'avance que l'histoire va mal se terminer. Donc on se dit bien qu'il va y avoir quelque chose de très romantique là-dedans et qui va permettre à la compositrice de laisser parler tous ses affects. Mais déjà, dès les premières notes de musique, on est plongé dans ces univers. Moi, je trouve ça remarquable.
On va écouter le deuxième mouvement qui est d'inspiration mendelssohnienne.
Plus mendelssohnien. Alors voilà, c'est le seul dont on n'a pas encore parlé, voilà. Mais effectivement, c'est un scherzo de Mendelssohn.
Tout à fait, ce qui rattachait le concert à la première œuvre, le deuxième trio de Mendelssohn, la deuxième sonate, pardon, de Mendelssohn. Le deuxième mouvement a un sous-titre, Appartement de Bérénice, ces femmes par leur chant et leur danse s'efforcent de la distraire. Thank you. Le deuxième mouvement de la grande sonate dramatique pour violoncelle et piano de Rita Stroll, Titus et Bérénice, Edgar Moreau, violoncelle, et David Cadouche, piano, en étaient donc les interprètes, un disque Erato, et vous l'aurez compris que Jean-Jacques et moi-même, nous vous conseillons vivement l'acquisition de cet enregistrement qui a été diffusé lors de notre journée Kissine du 23 juin dernier. Revenons à Evgeny Kissine et au concert d'hier soir qui nous a éblouis, et en particulier la deuxième partie pour vous, Jean-Jacques.
Honnêtement, oui, non. Le concert d'ouverture était exceptionnel. Et je trouvais qu'il y avait une très très belle progression, parce que c'est vrai que les trois premiers nocturnes de Chopin permettaient d'entrer un peu dans l'ambiance, qui est toujours un peu difficile pour un tout premier concert. Les gens sont survoltés, j'imagine que le pianiste lui-même ne doit pas être au meilleur de sa forme.
Il faisait très chaud.
Il faisait très chaud, voilà. Donc c'était très bien pour vraiment nous permettre d'entrer dans cette ambiance. La troisième de sonate de Schumann, qui est une œuvre très difficile. C'est vraiment pas facile. Vraiment, mettre ça dans un programme, c'est osé. Alors, nous disions tout à l'heure que voilà, Kissine est quelqu'un qui. Un pianiste, un musicien intellectuel au bon sens du terme. Et là, on le sent dans cette construction du programme. Mais il a fait cette œuvre avec une lisibilité incroyable. Tout devenait limpide. Tout en gardant cette force, vraiment, non, c'était superbe. Et alors oui, je vous disais juste qu'effectivement, moi j'avais été impressionné par la deuxième partie, parce que je ne l'avais jamais entendu dans du Debussy, et c'était extraordinaire. Il nous a fait huit préludes du premier et du deuxième livre, un petit peu mélangés, là aussi avec une progression extrêmement intelligente dans les atmosphères. C'était incroyable. Les simples bruyères devenaient des jeux de couleurs. Vraiment, c'était très beau. Bon, on l'attendait davantage peut-être dans la quatrième de Scriabine, qui a évidemment survolté la salle, mais voilà, bon, ça, il le fait avec génie, on le sait, c'était extraordinaire. Mais moi, vraiment, oui, les Debussy m'ont extrêmement impressionné.
Et puis, il a gratifié aussi le public de quelques bis.
Oui, trois bis, c'était très généreux de sa part, parce que le concert était déjà très long. Et il nous a fait trois bis. Alors là, par contre, c'est ma mémoire qui va me...
La
rêverie de Schumann, tout d'abord.
Une étude de Chopin.
Il a terminé par la dernière étude de Chopin. Et au milieu, que nous a-t-il fait ?
Debussy. Oui, il me semble que c'était Debussy.
Debussy, bon, j'ai un trou, excusez-moi. Ouais, mais aussi, effectivement, trois beaux...
Children's Corner.
Ah oui, le Gollywog Cakewalk. Voilà. Effectivement.
Eh bien, on va l'écouter. On va pas l'écouter dans Schumann, on va pas l'écouter dans Debussy, on va pas l'écouter dans Scriabine ni dans Chopin, mais dans Brahms, le Caprice en si mineur, opus 76, numéro 2.
Excellent choix. Thank you.
Le Caprice en si mineur, opus 76, numéro 2 de Johannes Brahms, par Evgeny Kissin. Eh bien, on est arrivé au terme de ce deuxième opus festival. Mon invité, c'était Jean-Jacques Grolot, dramaturge du festival, dramaturge à l'Opéra de Toulouse. Jean-Jacques, que vous pourrez retrouver demain sur l'antenne d'Accent 4 pour les chroniques quotidiennes. Merci Jean-Jacques d'être passé.
Merci à vous Olivier.
Et puis, vous revenez quand vous voulez.
C'est très gentil, voilà. Avec plaisir.
Un grand merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Et puis, quant à moi, je vous retrouve demain. Et mes invités seront au nombre de 3, puisqu'il s'agit du trio Zadig qui se produira à 12h30, à 12h15, pardon, au Coiffus.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.